Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout l'été, France Culture propose en effet de revenir sur quelques grandes figures de la pensée états-unienne dont la réflexion et l'œuvre entrent en résonance avec notre époque et nous aident à comprendre les États-Unis d'aujourd'hui. Après Rachel Carson la semaine dernière et avant John Rawls, Judith Butler, Susan Sontag ou encore John Dewey, dans les jours à venir, c'est à une grande écrivaine que nous allons consacrer ces prochains jours. La première femme noire à avoir obtenu un prix Nobel de littérature en 1993, Toni Morrison. Avoir raison avec Toni Morrison, premier épisode, on ne naît pas noir, on le devient. Cela fera un an, le 5 août prochain, que l'autrice de Beloved est morte, à l'âge de 88 ans. Un an après son décès, les derniers mots d'un homme noir agonisant sous le genou d'un policier blanc ont fait le tour du monde et sont devenus un slogan politique. I can breathe, je ne peux plus respirer. Ce drame a provoqué une prise de conscience mondiale de la condition noire et le mouvement Black Lives Matter a désormais un écho planétaire. Or, s'il est bien une romancière, à la fois pionnière et prophétesse, dont l'œuvre entière parle de la couleur de peau, de ses stigmates, de la violence qui lui est inhérente, du rapport de force qu'elle instaure entre les êtres, de l'innocence confrontée au mal, de la mémoire défigurée, c'est Toni Morrison. À travers ses 11 romans, mais aussi ses cours, ses discours, les livres qu'elle a édités, ses conférences, à travers Pecola, Seether, Tar Baby, Macon Mort, Florence et tous ces formidables personnages, elle n'a cessé de raconter ce qu'être noir aux États-Unis veut dire et de mettre des mots sur l'amnésie, la cécité à propos de ce qui est au fondement de l'histoire et de l'identité américaine, à savoir l'esclavage et le racisme. En ce sens, Toni Morrison n'a pas seulement été une immense romancière, elle a aussi contribué à bouleverser le regard que la société américaine porte sur elle-même en révélant la dimension universelle de la tragédie des Noirs américains. Elle qui s'était donnée pour défi d'écrire assez bien pour que la question raciale soit importante tout en ne l'étant pas, est-elle parvenue à démontrer la puissance des mots et de la littérature à laquelle elle a toujours cru? C'est ce que nous allons voir toute la semaine. Demain, en parlant de sa langue avec deux de ses traducteurs, Christine Laferrière et Jean-Guy Loineau. Mercredi, en compagnie d'une spécialiste de son œuvre, Anne Adams, et d'une romancière lauréate du prestigieux Women's Prize Book, Tayari Jones, nous nous demanderons comment Toni Morrison a révolutionné la littérature. Jeudi, nous nous pencherons sur son héritage avec Maboula Soumaoro et Audrey Célestine. Enfin vendredi, il sera question de son legs poétique et politique avec Christiane Taubira. Et pour commencer, qui était Toni Morrison?
I had never intended to be a writer. I had been quite content to be a teacher, an editor, and a reader. But at some point there was a story apparently I had not had access to. I hadn't read it. And so I wrote it.
Avec nous pour cette première émission, deux invités, Dominique Bourgois. J'ai envie de dire bien évidemment Dominique Bourgois. Bonjour à vous.
Bonjour.
Pourquoi bien évidemment? Parce que Dominique Bourgois, vous avez été la seule éditrice française à éditer les livres de Toni Morrison. Et puis avec nous, le journaliste Frédéric Joigneau, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, journaliste qui a rencontré Toni Morrison deux fois. Il dirige la toute nouvelle revue Ravage, dont le numéro 1 est sorti juste en ce début d'été. On entendait Dominique Bourgois, la voix de Toni Morrison, c'était à Bouillon de Culture en 1988, voix lente, grave, profonde, posée. Qui la caractérisait? C'est la première chose qu'on peut dire, cette voix.
Oui, je suis d'accord avec vous. Je voudrais simplement dire, nous n'avons pas été les premiers éditeurs de Toni Morrison, puisque Hortense Chabrier avait déjà traduit son livre. Mais j'ai eu le privilège d'avoir sa confiance pendant 30 ans. J'ai publié les livres de Toni Morrison pendant 30 ans. Et je suis très contente que vous ayez passé cet extrait, parce que elle dit deux fois qu'une des choses importantes, c'est d'avoir été non seulement un éditeur, un professeur, mais une lectrice. Et je pense que d'avoir été une lectrice, c'est une des choses les plus importantes de sa vie. Et c'est en fait ce qu'elle transmettait le plus. C'était le fait de savoir lire et pourquoi lire.
Donc, elle ne voulait pas au départ devenir écrivain, explique-t-elle dans cette voix, dans cette archive qu'on a entendue.
Oui,
en effet, je voulais devenir enseignante, éditrice et lectrice, disait-elle.
Voilà. Alors là, je crois que j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec une amie de Toni Morrison pendant le week-end, qui est une femme qui la connaissait depuis qu'elles enseignaient ensemble à Harvard d'université dans les fins des années 50. Et elle me dit que non, Toni Morrison avait toujours voulu écrire. Bon, elle l'a fait, elle est passée à l'acte, mais en fait, elle avait toujours envie d'écrire. Elle ne le disait pas, elle dit qu'elle écrivait en se cachant ses pages sous d'autres pages, mais qu'elle avait toujours eu la volonté d'écrire. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a dit, elle a écrit parce qu'elle ne trouvait pas l'héroïne dont elle avait envie de raconter l'histoire. Donc ce désir l'a toujours tenue.
Et elle voulait toujours donc devenir écrivain, malgré ce qu'elle a dit, en tous les cas publiquement. Ce qui est sûr, Dominique Bourgois, c'est qu'elle n'avait peut-être pas envie de devenir une icône, une autorité morale qu'elle est devenue. Comment, vous qui l'avez côtoyée de très près, vous étiez très très liée hein, pendant 30 ans, comment vivait-elle cette position, cette stature qu'elle avait acquise?
Je pense pas qu'on a la volonté de devenir une icône. Enfin, ça vient d'abord la stature d'icône. Elle est venue avec le prix Nobel. Et croyez-moi, Toni Morrison, elle n'était pas dupe. Elle n'était pas dupe du tout, ni du prix Nobel, ni de. Je pense que la médaille qui l'a le plus touchée, honorée et intimement, c'est la Medal of Honor qui lui a été remise par le président Obama. Mais elle était, bon, je pense qu'elle a eu du plaisir à être cette femme respectée, mais intimement, elle était peut-être pas tout à fait. Enfin, je pense qu'elle a jamais été dupe. Ça se voit dans sa vie quotidienne, dans les phrases qu'elle a dit, dans les conférences qu'elle a données. Elle a eu sans doute beaucoup de plaisir à pouvoir, grâce à ce prix Nobel, dire des choses, être invitée à écrire, à participer, à être entendue. Mais comme vous savez, elle a toujours été extrêmement discrète. Elle a toujours été une personne intime. Et elle le dit, cette relation qu'elle a toujours à la notion de home, la maison, le fait d'être quand même assez retirée. Elle n'a pas joué de ce privilège de la reconnaissance. Et en plus, elle a toujours été très, très attentive à ce qu'on ne fasse pas d'elle une femme noire américaine prix Nobel. Elle a dit « je ne veux pas être un substitut pour un homme blanc ». Elle faisait très très attention à ça. Elle a toujours mis en garde ceux qui l'interviewaient de ne pas la mettre dans cette position.
Vous disiez, Dominique Bourgois, femme intime, femme privée. Est-ce que vous feriez une différence entre la femme publique et la femme privée? Elle avait, par exemple, la réputation, vous parlez des journalistes, de n'être pas très commande. Vous dites tout à l'heure, vous avez ras-le-bol qu'on dise qu'elle était intimidante.
Mais oui, parce que, alors, bon, évidemment, pour nous, elle n'était pas intimidante. Parce que
vous la connaissiez très bien.
Voilà, c'est un privilège. Les éditeurs ne connaissent pas toujours très bien ni intimement les auteurs qui publient. Je veux dire, nous, on est liés par un contrat, on a des devoirs vis-à-vis d'un auteur, on a des responsabilités, on a des engagements. C'est vrai, j'appelle ça un privilège, si vous voulez, d'avoir pu bénéficier de la confiance de Toni Morrison. D'abord, j'ai eu sa confiance comme éditeur. C'est quelqu'un qui m'a donné des manuscrits à lire. C'est pas souvent. C'est quelqu'un qui avait confiance en nous, confiance dans le fait qu'on allait bien éditer ses livres, bien les traduire, bien les trouver les lecteurs. Et ensuite, c'est devenu une amitié. Et cette amitié, pour nous, on est quelques-uns, elle a été essentielle et je pense qu'elle a, dans un sens, un peu changer notre vie, parce que qu'est-ce qui nous manque le plus en ce moment? C'est de parler à Toni Morrison. Moi, pendant des années, j'ai dit « je vais appeler Toni ». Et c'est ce moment-là a été pour nous tous qui avions la chance de pouvoir le vivre, un accompagnement dans notre vie. Elle nous donnait des conseils, on avait des commentaires. Et hélas, je veux dire, les derniers mois de sa vie, les dernières années ont été gâché, il n'y a pas d'autre mot, par la présidence de Trump qui vraiment la contrariait, mais la contrariait très très fort. Et elle a dit dans une jolie interview, elle a dit « mais ça fait rien, je vais les survivre ». Malheureusement, non. Mais elle avait la rage. Bon, comme c'est quelqu'un qui regardait beaucoup la télévision, mais ça l'a profonde. Et je suis heureuse qu'elle ne vive pas les moments qu'on est en train de vivre. Qu'elle n'entende pas ce vocabulaire, qu'elle n'entende pas ce flot de racisme honteux qui, je crois, l'aurait mais totalement bouleversée. Parce qu'elle l'était déjà avant, sans qu'on arrive à ce stade.
Puisque vous évoquez ce rapport qu'elle avait, cette difficulté à vivre l'élection de Donald Trump, on va l'entendre. Toni Morrison, au micro de François Bunel pour la Grande Librairie, c'était en 2018. Écoutez.
We have someone.
Nous avons pour président la personne la plus rétrograde et la plus mal informée que je n'ai jamais vue. C'est douloureux. Et plus encore, c'est dangereux. Vraiment dangereux. Il vaut mieux que je ne prononce pas son nom, mon Dieu. Il ne sait pas rire. Ou alors ça ne lui est jamais arrivé. Il sourit, il fronce les sourcils, mais il ne sait pas rire. C'est une expérience profondément humaine. Il en est incapable. Ça m'effraie. Parce que cet homme est au pouvoir depuis un an. Et moi, j'ai 87 ans.
Are you telling me that...
Si vous êtes en train de me dire que je vais mourir avec lui au pouvoir, non, je vais survivre à ça. Point final.
La voix et le rire de Toni Morrison au micro de François Bunel, Dominique Bourgois. Parce que c'était important quand même de parler de son rire. Elle disait que Donald Trump n'aimait pas, voire ne savait pas rire. Or, elle, c'était une femme drôle, sensuelle, ce qui n'empêchait pas que c'était une femme déterminée. Avec beaucoup d'aplomb.
C'est pas antinomique, la sensualité et la détermination. Non, mais c'était une femme extrêmement sensuelle, extrêmement gourmande. La gourmandise affleure dans plein de ses romans. Je veux dire, j'ai l'habitude de dire comme une boutade que quand Toni Morrison fait cuire des pommes de terre dans une poêle, j'ai faim, dans un de ses romans. Et c'est vrai, elle avait une sensualité extrêmement fleur de peau, dont elle jouait beaucoup. C'était une femme très séduisante, elle aimait séduire, elle aimait s'acheter des belles chaussures, des beaux vêtements, se maquiller, avoir des manucures. Bien sûr, elle a joué de ça, et elle a joué de cette voix exceptionnelle. Quand on lui téléphonait, elle n'avait pas le même teint de voix qu'au début de la conversation. Quand elle était rassurée par la personne qui était au bout du fil, elle retrouvait cette voix de charmeuse merveilleuse, qui était aussi une voix de quelqu'un qui avait beaucoup fumé, parce qu'elle a beaucoup fumé, et elle savait en jouer très bien. Et c'est pour ça que quand elle a... Il faut savoir que tous les audiobooks de Toni Morrison, des romans de Toni Morrison aux États-Unis, ont été enregistrés par elle, parce qu'elle avait raison. Personne ne mieux qu'elle ne pouvait transmettre la voix de ces personnages.
Frédéric Joigneau nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous lui avez rendu hommage à Toni Morrison. C'était le 10 août 2019, quelques jours après sa mort, dans un billet de blog sur le site du Monde, lemonde.fr. Et précisément, vous commencez votre article par sa voix en disant « Elle ressemble à une chanteuse de gospel, coffre, charisme, puissance, la voix impressionne. » Vous l'avez rencontrée, hein, deux
oui,
fois. C'est la voix qui vous a impressionné.
Oui,
d'abord.
Oui, c'est vrai. Elle a une voix extraordinaire. Elle a une voix très grave, certainement de fumeuse, mais surtout aussi ce qu'elle a, c'est qu'elle a une voix, elle a une manière de parler qui est assez envoûtante. Enfin, moi, quand je l'ai rencontrée, j'ai rencontré deux après-midi de suite à New York, donc pour Le Monde. Et elle a une manière de parler. Elle parle lentement. D'une façon assez magique, avec des adjectifs, d'une façon littéraire. Elle est très, précise, mais en même temps, elle vous envoûte, quoi. Moi, j'étais envoûté, je l'ai vu pendant plusieurs heures, quoi. J'étais envoûté, j'étais complètement charmé par elle. À l'époque, elle avait plus de 70 ans, hein. C'était une très belle femme, encore très vraiment incroyablement puissante et... Oui.
Une femme puissante et une femme, on parlait de la détermination tout à l'heure, je me souviens d'un article du Sunday Telegraph en 2004 qui titrait « La mélancolie et l'aplomb ». Peut-être que cet aplomb lui venait de sa famille. Elle est née Chloé Antonio Wilford en 1931 à Lorraine, petite ville de l'Ohio, qui est d'ailleurs la toile de fond de son premier roman, « L'œil le plus bleu ». Un père ouvrier soudeur venant du sud, de Géorgie, une mère venant de l'Alabama. Et elle disait, on va l'entendre au micro de Clémence Boulou, dans Les Avoix Nues en 2006 sur France Culture, elle disait combien ses parents lui ont donné le sentiment de toujours pouvoir tenter quelque chose, combien ils lui ont appris à ne pas se laisser faire. Peut-être que cette détermination, cet aplomb, vient-il de là ?
Je crois que ça s'inscrit en droite ligne avec la tradition familiale, notamment celle des femmes dans ma famille, qui toutes étaient très déterminées, savaient ce qu'elles voulaient et avaient une grande résilience comme cela. Et connaissant les difficultés auxquelles s'étaient confrontées mes deux grands-mères, j'avais vraiment le sentiment que je devais être à la hauteur et que je devais être digne d'elles. Et pour forger cette vie, j'avais en plus des avantages dont elle n'avait pas pu bénéficier, notamment bien sûr l'éducation et le fait d'avoir un métier. Donc moi, je n'avais pas le droit de m'effondrer, il fallait que je sois forte et que je sois effectivement digne des femmes de ma famille.
Dominique Bourgois, et pourtant, elle n'aimait pas bien qu'on ramène son œuvre à l'autobiographie, puisqu'elle disait finalement, à part L'œil le plus bleu, aucun de mes livres n'est autobiographique, tout vient de mon imagination. Il n'empêche que on comprend aussi Toni Morrison quand on se plonge dans cette enfance qui a été la sienne et qui a été marquante, indélébile. Des Noirs vivant dans la crainte, son père qui détestait les Blancs et qui avait vu...
Non.
C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit.
Oui, je vous écoute. Oui, mais de manière modérée, parce que si on le dit ça comme ça maintenant, ça peut s'entendre autrement. Je pense que si vous voulez, oui, il y a des choses que Madame Morrison m'a dites. Voilà, quand elle était jeune fille, qu'elle prenait le bus et que sa maman lui préparait un panier parce qu'elle savait que elle ne serait pas servie en descendant du bus parce que c'était pas réservé, c'était des endroits où les Noirs n'étaient pas bienvenus. Ça vous marque pour la vie. De même que je vous ai dit quand il y a des choses qui sont indélébiles. Je veux dire quand elle a offert une voiture de sport à son fils après le prix Nobel et qu'elle m'a dit j'ai qu'une peur, c'est qu'il se fasse arrêter par la police. Je pense que vous comprenez aujourd'hui ce que ça veut dire. Donc quand vous vivez avec ça dans votre sang, dans votre âme, à travers votre peau, rien n'efface jamais ça. C'est inadmissible qu'une mère ait peur d'offrir une voiture à son fils parce qu'elle a peur qu'il se fasse arrêter par la police. En même temps, à un moment plus tard, elle avait dit « ça va mieux ». Maintenant, il n'y a plus de ségrégation, on peut monter dans un bus, on peut se nourrir dans n'importe quel restaurant. Et c'est pas vrai, parce que ce qui se passe maintenant est encore pire. Et je crois qu'un des livres où il explique le mieux ça, c'est Home, où il explique le trajet de ce soldat qui vient de la guerre de Corée et qui traverse tous les États-Unis, où effectivement, elle s'est servie du Green Book pour expliquer les endroits où ce soldat pouvait manger, dormir, se faire soigner, aller dans une église. Elle a vécu ça toute sa vie. Elle l'a transmis dans tous ses romans, par des détails, il faut noter toujours que Madame Morrison était extrêmement vigilante à ce que tout ce qui soit dans ses livres soit vrai.
Frédéric Joigneau.
Oui, ce qui est aussi formidable dans Toni Morrison, c'est qu'elle a donné, les lettres de noblesse à l'imaginaire afro-américain, noir, et qui était très peu finalement exploré. C'est ça qui est extraordinaire chez elle, c'est-à-dire que au moment où elle publie son premier livre, L'œil le plus bleu, elle parle de quoi? Elle parle d'une petite fille qui rêve d'avoir les yeux bleus parce que en fait elle voit autour d'elle des petites filles blondes, tout ça, qui sont très aimées, tout ça, et elle non, elle voudrait avoir les yeux bleus, elle voudrait avoir les cheveux lisses, etc. Et au moment où elle raconte ça, à l'époque, c'est très mal vu. Parce que, c'est l'époque où du militantisme...
Mal vu au sein de la communauté noire.
Au sein
noire
de la communauté américaine. Noire, voilà. C'est très mal vu par les politiciens noirs, par la communauté noire, par même certains écrivains. Parce que, bon, elle dit pas quelque chose de terrible sur la condition. Elle parle de petites filles qui voudraient avoir les yeux bleus. Donc ça paraît incroyable. Mais en fait, ce qu'elle découvre à ce moment-là, c'est que au fond, il y a tout un imaginaire. Le fait d'être né sous l'esclavage, etc. En fait, ça a créé tout un imaginaire. Ça a créé, des rêveries. Par exemple, elle raconte dans le chant de Salomon, elle raconte quand les gens chantent dans les champs de coton, eh bien finalement ils rêvent à des magiciens qui vont s'envoler en Afrique pour retourner dans un pays libre, dans un pays où ils étaient heureux, quoi. Et donc en fait c'est toute cette dimension de l'imaginaire qu'elle a réussi à sortir, qu'on voit aussi dans Beloved. Et ça, je crois que c'est ça qui est la grande force, la grande puissance littéraire de Toni Morrison.
Dominique Bourgois l'écrivait en effet pour combler un manque, et on l'entendait dans cette archive au début, cette histoire qu'elle n'avait jamais lue, c'est précisément celle-ci, tout née d'un silence, et ça c'est une phrase issue de Beloved, un silence autour de la population africaine-américaine. Vous disiez tout à l'heure qu'elle travaillait de façon incroyable, comme une véritable fact-checker, travail d'archiviste, travail d'historienne, mais qui rassemblait aussi tous ses souvenirs.
Oui, mais ce que vous appelez fact-checker, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, elle était extrêmement méticuleuse et exigeante. Et d'abord parce qu'il y a un moment où on se méfie de ses souvenirs, on veut pas les embellir, mais on veut pas qu'ils soient distordés. Donc, ce travail de recherche est quelque chose qui était tout à fait, pour nous, intéressant à regarder et même fascinant. Parce que cette exigence, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pas terminé son dernier roman, alors qu'on lui demandait tous, elle nous avait tous raconté l'histoire, parce qu'elle avait besoin de savoir tout ce qui se passait dans les étoiles, la lune et tout, et qu'elle a demandé à tout le monde de lui apporter tous les livres. Bon, elle a passé beaucoup de temps à faire des recherches, mais elle l'a fait pour tous ses livres. Et c'est vrai, Frédéric, vous avez raison, l'imaginaire, elle a recréé cet imaginaire, elle l'a inventé, elle l'a embelli, elle l'a transmis, toujours, alors, un peu parfois sous la forme de contes, et parfois non, mais il faut regarder, elle s'est occupée de beaucoup d'époques. Elle s'est aussi occupée d'époque contemporaine. Elle s'est occupée de l'esclavage. Elle est des années 50, des années 60.
Du jazz.
Bon. Et jazz. Ce qu'il y avait de formidable aussi, si on regarde, c'est que, elle l'avait dit d'ailleurs, quand vous appelez un livre jazz, l'information, vous l'avez tout de suite. On sait tout de suite ce qui va se passer. Et ça, c'était très très habile. D'immédiatement. Parce qu'elle tenait beaucoup, enfin je crois, dans ma compréhension, à avoir cette relation de confiance avec le lecteur. Elle voulait immédiatement parler à son lecteur. Et ça se sent. Je pense que c'est pour ça qu'elle était tellement méticuleuse. Elle voulait que le lecteur comprenne tout. Et elle l'a dit dans une conférence. Elle l'a dit, elle était elle-même une grande lectrice et le lecteur, elle savait très bien. Elle voulait ce tête-à-tête.
Frédéric Joigneau.
Oui, elle a quelque chose de, parce qu'elle retrace des grands épisodes, hein, aussi de la vie des Noirs américains, donc notamment le jazz. Donc elle raconte, par exemple, les musiciens de Fats Waller, comment ils étaient, la hype black, par exemple aussi, le fait que c'était des séducteurs, qu'ils avaient une manière de s'habiller, qu'en fait il y a eu toute une époque où les Noirs où le jazz a commencé à devenir très connu, où c'était aimé. Ouais, tout ça qui défendait le jazz. Elle raconte tout ça, mais en même temps, elle montre toujours, par exemple, sur le jazz. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné, je sais plus où. Elle montre aussi que le jazz, la capacité d'improvisation du jazz, etc., ça l'a influencé dans sa manière d'écrire aussi. Ça aussi, c'est très intéressant de voir que là aussi, elle est proche d'une forme de culture afro-américaine qui a été sublimée, qui est devenue un grand courant musical fondamental. Mentale, quoi. Et elle montre que tout ça, ça aussi, ça l'a influencé.
Et vous montrez dans l'article dans lequel vous lui rendez hommage l'année dernière, le 10 août 2019, Frédéric Joigneau, comment elle a influencé aussi la littérature de ce point de vue-là, en citant notamment Salman Rushdie, que vous avez rencontré,
oui,
qui disait qu'elle a apporté l'Afrique dans la littérature américaine comme les grands musiciens noirs ont apporté le jazz dans la musique européenne. D'une certaine façon, c'est la forme, mais c'est aussi le fond.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, alors bon, Rushdie pensait que c'était un très... Moi, je l'avais interviewé à ce moment-là. Il pense que c'est un très, très grand écrivain parce que, justement, c'est cette nouvelle littérature, bon, comme il y a chez Rushdie, quoi, où il y a une espèce de mélange, de je sais pas comment dire, de mescla de toute une forme, différentes formes de culture, c'est-à-dire l'écriture romanesque classique, anglo-saxonne, etc., dont hérite Rushdie, quoi. Mais en même temps, il y a toute la magie indienne, les grandes cités indiennes, etc. Et ce qu'il voulait dire, c'est que, oui, elle a réussi à elle qui vient d'un milieu ouvrier afro-américain, qui après passe par l'université, après elle est militante noire et après elle rencontre le jazz et en même temps elle réfléchit aux origines africaines et caraïbes aussi, c'est très important pour elle, parce qu'il y a tout un roman qui se passe dans les Caraïbes et
son amitié avec Derek Walcott aussi, ça compte.
Oui. Oui, c'est vrai.
Le fait qu'elle ait publié Voyez Soyinka, qui était un historien.
Premier prix Nobel.
Elle a été son éditrice.
africain oui. noir. En l'occurrence, ce qui est important aussi de noter, Dominique Bourgois, puisque vous reprenez la parole, c'est à quel point ce que vient de dire Frédéric Joigneault est lié au fait qu'elle avait une très grande connaissance de cette histoire, intime mais pas seulement intime, puisqu'elle avait étudié la littérature à l'université d'Howard à Washington entre 49 et 53. Elle avait été professeure à l'université du Texas en 55, puis éditrice. Et les auteurs qu'elle a édité, Mohamed Ali, Angela Davis, James Baldwin, le Black Book également.
Le Black Book, c'est intéressant.
Ont été peut-être à l'origine aussi des Blackness Studies, Dominique Bourgois.
Elle a aussi édité cette femme merveilleuse, Toni Kade Bambara, qui était un auteur magnifique, hélas disparu trop très jeune. Et puis Angela Davis, elle a quand même publié à la fois des auteurs très littéraires et des militants. Et aussi, elle l'a souvent dit, sa rencontre avec Voyez Soyinka était un moment décisif, je crois, pour elle, pour sa réflexion.
Et elle avait fait une thèse sur le suicide dans l'œuvre de Faulkner et de Virginia Woolf. Faulkner, dont elle disait qu'il était le seul à parler de la race sans le moindre mépris, sans la moindre dérision et sans colère. Frédéric Joigneault.
Oui, Faulkner, on sent bien qu'il y a une influence de Faulkner sur les livres de Toni Morrison. Sur la question de la race, des races, quoi. Effectivement, bon, où elle a été, elle pensait pas du tout, par exemple, quand il y a eu Obama, etc. Parce qu'on a dit après, avec l'élection d'Obama, qu'on était entré dans une Amérique post-raciale, quoi. Hein, que, en fait, c'était fini, quoi, finalement, le fait. Et puis, en fait, non, pas du tout, quoi. On s'en rend compte encore plus maintenant. Et elle était très, très, très lucide là-dessus, que, en fait, que l'Amérique était toujours une société raciale, ostracisante, difficile, voilà quoi. Et d'ailleurs, moi, quand je l'avais rencontrée, elle était vraiment en colère parce qu'elle était très, très en colère pour ce qui s'était passé après le 11 septembre. Elle trouvait que, en fait, qu'est-ce qu'avait fait l'Amérique ? Ils avaient appelé les gens à consommer, ils avaient appelé les gens à uniquement, finalement. Elle dit on n'a pas eu de geste d'amour, on n'a pas eu de geste pour nous rassembler, pour nous réfléchir à ce qui nous arrivait. On nous a dit allez consommer. Le seul message qu'avait l'Amérique, en fait, c'était la consommation dans une société qui n'était toujours pas, qui était toujours raciste, quoi. Donc elle était très très critique sur la société américaine, il faut savoir qu'elle était vraiment...
Très critique envers Bush. Elle a mis du temps en observant Obama à finalement le soutenir.
Oui, elle a mis du temps, oui, mais... Et d'ailleurs, Obama a dit aussi des choses sur elle très importantes, quoi.
Trésor national, on s'en souvient.
Oui, voilà, c'est vrai, oui, donc... Mais en même temps, non, elle était très lucide et très en colère. Moi, quand je l'ai vue, elle était vraiment... il y avait eu des grandes manifestations contre l'Irak, l'invasion de l'Irak. Il y avait eu 500 000 personnes à New York, etc. Personne l'a su, même en France, quoi. Toutes les télévisions américaines ont recouvert le truc. Et elle disait, mais voilà, vous vous rendez compte, on vit dans ce pays, quoi. Est-ce que vous comprenez en Europe que c'est pas la liberté ici, quoi? Elle était vraiment remontée.
Et c'est pour ça que Dominique Bourgois nous disait au début, à la fois que elle était effectivement très très en colère contre Donald Trump, mais que finalement les mots de Toni Morrison nous manquent aujourd'hui, mais qu'en même temps elle était heureuse, Dominique Bourgois, de finalement qu'elle ne voit pas ce qui est en train de se passer, même si elle était fière de ce mouvement Black Lives Matter et de ce qui se passe en ce moment comme un élan. On va se quitter en musique, comme chaque jour pour cette série d'Avoir Raison avec Toni Morrison. Première musique. C'est sur vos conseils, Dominique Bourgois, que nous allons entendre une voix qui vous a fait penser, qui vous fait penser à Toni Morrison, et une chanson que Toni Morrison aimait particulièrement, Summertime, Ella Fitzgerald.
Summertime, and the living is easy. Jumping the cotton is high.
Merci à tous les deux, Frédéric Joigneau. Merci beaucoup, Dominique Bourgois. C'était Avoir raison avec Toni Morrison, Caroline Brouet, Roxane Poulain, Alexandre Fougeron à la réalisation, à la technique. C'était Anthony Thomasson. On vous donne rendez-vous pour Avoir raison avec Toni Morrison, épisode 2, dès demain.